Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Dans un monde hyper connecté mais souvent en quête de sens, comment l'Eucharistie peut-elle encore toucher les cœurs aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans ce Vivante Église. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du jour. À quelques jours de la fête Dieu célébrée ce dimanche, nous prenons aujourd'hui le temps de nous arrêter sur cette place de l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Pourquoi l'Eucharistie continue-t-elle encore aujourd'hui de toucher les cœurs, de bouleverser aussi et de ramener aussi à la fois de nombreux cœurs? Pourquoi voit-on aussi de nombreux jeunes revenir vers l'adoration, vers le silence et la contemplation? Pour en parler et en ligne, par téléphone, vous allez découvrir Marie et son époux Jean-Baptiste Maillard, engagés depuis plusieurs années dans l'évangélisation autour des miracles eucharistiques et autour du témoignage de Saint Carlo Acutis. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous en ligne sur Radio Présence et ce rendez-vous de Vivante Église. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors, merci de votre invitation.
Alors, ravie de vous accueillir pour cette émission du jour qui nous conduit aussi ce dimanche à cette belle fête. On en parlera au cours de l'émission, la fête Dieu, la fête qui célèbre l'Eucharistie. Alors, un ouvrage est paru récemment aux éditions Arthège, Les miracles eucharistiques dans le monde. On en parlera aussi au cours de cette émission. Mais tout d'abord, comment avez-vous tous les deux, Marie et Jean-Baptiste Maillard, découvert la figure de Carlo Acutis qui fut canonisé le 7 septembre 2025. Racontez-nous, on vous écoute.
Eh bien, en 2015, nous avons créé une association qui s'appelle Light in the Dark. Son nom est tiré de la prophétie d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette grande lumière que vous voulons annoncer, c'est celle du Christ sur Internet. C'est Isaïe 9.1. Et quand on s'est réunis pour créer cette association, c'était le 7 septembre 2015. Donc on a signé les statuts à la date du jour. Et Carlo, il est canonisé le 7 septembre 2025, donc 10 ans, jour pour jour, après notre fondation. Ce qui nous a beaucoup marqué, et en fait assez vite, dans la vie de notre mission et de notre association, eh bien, on a vu Carlo agir. Alors au début, on ne le connaissait pas du tout. Et puis, un ami prêtre nous en a parlé. Il est venu dîner un soir chez nous et il nous a parlé de Carlo en nous disant « Vous devriez regarder parce qu'il avait fait une exposition sur les miracles eucharistiques et aussi un site internet sur le sujet, vous qui faites des sites internet ». Et du coup, on s'est un peu plongé dans la vie de Carlo. On a commencé à le prier, mais tout ça a été naturellement aussi très progressif. On a eu aussi à peu près à la même époque un prêtre qui est venu sur notre paroisse à Tours, nous habitons Tours, nous parler d'un miracle eucharistique qui a eu lieu dans sa paroisse en Pologne. Et ça nous avait aussi un peu interpellé, même vraiment touché. Et donc de fil en aiguille, on s'est plongé dans la vie de Carlo. On a commencé aussi à le prier avec la prière officielle pour son procès de béatification. Et en fait, on a commencé à avoir des miracles avec lui. Voilà, on en a eu pas mal sous les yeux et donc on s'est progressivement plongé de plus en plus dans sa vie et surtout on a bâti une amitié avec lui, une amitié spirituelle et je pense que ça peut intéresser n'importe quel auditeur de Radio Présence eh bien, de se dire peut-être que c'est l'occasion de demander à Carlo de devenir un ami au ciel et ça c'est assez fort dans une vie chrétienne d'avoir un saint pour ami.
Alors, vous êtes marié Jean-Baptiste, auteur et conférencier, et vous avez aussi écrit deux best-sellers autour de Saint Carlo Acutis, le kit sainteté de Carlo Acutis, selon sa méthode inédite, et puis Carlo Acutis, une âme de feu, donc c'est une biographie qui était parue aux éditions Arthège. Qu'est-ce qui vous a touché personnellement chez lui, Marie? On va peut-être entendre Marie quelques minutes sur cette présence aussi de Carlo Acutis dans votre vie au quotidien. Et puis dans votre mission d'évangélisation à travers l'œuvre aussi d'Internet. Marie, quelques mots?
Oui, alors moi ce qui me touche dans la vie de Carlo, c'est déjà sa joie. C'est vraiment un saint. J'aime bien dire que Carlo, il a dépoussiéré la sainteté. On se faisait peut-être parfois l'image d'un saint, donc dans une statue qui ne bouge pas, ou alors de temps en temps on avait des photos, mais c'était des photos noires et blancs. Et là, eh bien, Carlo, on a des vidéos de lui et on voit que c'était un bout en train, Carlo. Vous voyez, c'était pas un saint en naphtaline, c'était vraiment quelqu'un de joyeux. Il y a même une petite vidéo où il s'amuse et il tire la langue. Voilà, donc Carlo, il nous montre qu'on peut être à la fois saint, suivre Jésus, et que ça rime avec le bonheur et avec la joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la personnalité de Carlo. Et puis aussi, toute sa profondeur, voilà, il était sans compromis, Carlo, vous voyez, dans sa vie de prière, dans sa vie d'amitié aussi. Et ça, je trouve que c'est très fort. On a aussi des messages, on parle beaucoup aujourd'hui, vous voyez, de harcèlement. Eh bien, Carlo, il a pris position à plusieurs reprises pour des situations où des jeunes étaient harcelés. Et donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment un saint aussi pour notre époque, parce qu'il parle de situations qu'on vit aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a toute sa mission autour de l'Eucharistie, parce que je pense que aujourd'hui, le sujet de l'Eucharistie est vraiment un sujet d'actualité, un sujet brûlant. Alors, on pourrait dire que ça l'est depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, on a comme une espèce de redécouverte, j'ai l'impression. Ou alors c'est Carlo qui, au du ciel, poursuit sa mission. Mais on a une espèce de redécouverte de ce qu'est l'Eucharistie et de l'essentiel que c'est pour notre vie personnelle et pour la vie de l'Église.
Et c'est justement dans l'Eucharistie que Carlo a puisé toutes les grâces pour devenir saint. On parle de la vie sacramentelle comme les moyens ordinaires hein, pour la grâce. Et donc, la confession, la communion. Et Carlo, le jour de sa première communion, sa vie finalement bascule. Il va vouloir y aller tous les jours. Et c'est là qu'il va trouver toutes les forces, qu'il va laisser finalement la grâce de Dieu agir à partir de son baptême hein, pour devenir le saint qu'il devient. Vatican II nous dit que la sainteté, c'est l'union aux hommes et l'union à Dieu. Il est très uni à Dieu, mais il est aussi uni à tous les hommes et il va vers tous. Ce qui fait que Carlo, aujourd'hui, tout le monde se reconnaît en lui, tout le monde l'apprécie. Mais c'est vrai que de son vivant, si vous lisez notre biographie Carlo Acutis, une âme de feu, vous allez vous rendre compte que il aidait les vieilles dames qui avaient du mal à monter leurs courses. Il parlait aux concierges sur le chemin de l'école. Dans un square, un jour, il a aidé une dame qui était très malade et qui ne voulait pas se faire soigner. Et en devenant ami avec elle, il l'a convaincue d'aller à l'hôpital. Elle y est restée 40 jours et après, il lui a trouvé un logement social. Et donc, il aidait aussi ses camarades de classe. Marie vient de le dire, qui était un peu au banc. Et donc, il allait vers tous. Et c'est ce qui fait aussi, jeunes ou moins jeunes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les jeunes ou les moins jeunes, on connaît aussi beaucoup de grand-mères qui prient Carlo pour leurs petits-enfants. Et naturellement, aussi, les jeunes sont particulièrement touchés par son message et sa vie évangélique.
Et je fais juste le lien pour répondre à la fin de votre question sur le lien avec l'évangélisation, donc notre mission par Internet. Je crois vraiment que pour moi, il y a un lien entre la mission et la contemplation, l'adoration. Vous voyez, cette vie eucharistique, c'est parce que on a une vie intime avec Jésus. Et on a une vie ecclésiale aussi, hein, puisque l'Eucharistie, c'est une vie ecclésiale. C'est grâce à ça, c'est grâce à cette vie avec Jésus dans l'Eucharistie qu'on a le désir, en fait, de parler de lui, de le faire connaître, de le faire aimer. Voyez, j'aime bien faire la comparaison avec Jean-Baptiste quand on était fiancés, jeunes fiancés. Jamais il ne me serait venu à l'idée de cacher mon fiancé, vous voyez, parce que j'avais envie de le faire connaître à toutes mes amies et ça aurait été même problématique. Les gens se seraient dit, bah, elle cache son fiancé, c'est qu'elle l'aime pas au fond, vous voyez. Eh bien, pour moi, la vie avec Jésus, c'est pareil. Si je fréquente Jésus, je m'aperçois que c'est quand même, c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. C'est un Dieu extraordinaire, on l'aime. Et en fait, la mission, c'est un débordement de cet amour et de cette vie intime avec Jésus.
Vous avez employé le terme Marie de fréquentation. Carlo Acutis, qui est devenu Saint Carlo Acutis, montre cet exemple après cette première communion à l'âge de 7 ans, ce basculement, ce besoin de vivre l'Eucharistie jour après jour. Carlo va vivre la Sainte Messe chaque jour. C'est un appel peut-être ou un rappel, et vous avez parlé tous les deux de redécouverte peut-être en ces temps de confusion, des temps particuliers où le monde est quelque peu dans des ténèbres, un peu épais, mais la lumière transparaît. Alors vous avez écrit dans cette mission que vous avez tous les deux, mission d'évangélisation, votre cœur déborde. Vous avez écrit, et il y a ce livre, Les miracles eucharistiques dans le monde, paru aux éditions Artege. Racontez-nous un petit peu l'idée de cet ouvrage qui est particulièrement bien construit, où sont relatés tous les grands miracles eucharistiques. Racontez-nous cette histoire. Et c'est un livre cadeau à offrir. Et ça, c'est un petit mot aussi pour les auditeurs qui vous écoutent et vous découvrent aujourd'hui dans ce Vivante Église. Quelques mots.
En fait, Carlo, on le présente souvent comme un geek de Dieu. Et moi, je trouve que c'est vrai pour une part, puisqu'il a fait pas mal de sites internet. Mais c'est pas que ça, c'est même un peu réducteur. Si vous voulez, Carlo, on pourrait résumer son héritage à deux points extrêmement importants. D'abord, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est la méthode qu'il avait inventée pour devenir saint. Et c'est pas commun d'avoir une méthode en sept points. Ça s'appelle le kit sainteté. C'est l'expression de Carlo. En fait, les jésuites de son école lui avaient demandé de faire un peu de catéchisme à ses copains. Et il s'est dit, la meilleure chose que je puisse leur offrir, c'est les aider à grandir vers la sainteté. Parce que lui-même, Carlo, déjà de son vivant, il cherchait à devenir saint. Il avait demandé à ne pas faire de purgatoire auprès de Notre-Dame de Pompéi. Quand il croisait des religieuses, il leur demandait de prier pour qu'il devienne un saint. Et donc, il a écrit cette méthode, le kit sainteté, que mon épouse surtout a mis en livre. Et en fait, c'est assez fabuleux. Le premier point de son kit sainteté, on va s'arrêter juste sur celui-là, c'est d'essayer d'aller à la messe tous les jours. Et en fait, c'est le deuxième point de son héritage de Carlo, c'est l'exposition et qui nous a vraiment laissé en héritage sur les miracles eucharistiques. En fait, sa maman nous dit que c'est sa grande œuvre. Voilà, s'il y a une grande œuvre avec Carlo, eh bien, c'est cette exposition qui a fait le tour du monde. Et comme il était un peu geek, eh bien, il a eu le génie de la mettre en libre accès, gratuitement, pour être téléchargé sur Internet. Donc, on peut télécharger tous ces panneaux et en plusieurs langues. Et en fait, très vite, eh bien, cette exposition va faire le tour du monde. Mais quand je vous dis le tour du monde, c'est sur les 5 continents. C'est très impressionnant. Et elle circule d'ailleurs en ce moment beaucoup en France, mais dans plein d'autres pays, dans plein de langues. Et donc, c'est ça sa grande œuvre, parce qu'il a voulu, à travers cette exposition, nous faire plonger davantage dans le mystère de la présence réelle, dans le mystère de Jésus ostiqué, comme disait le cardinal Billet, un océan de sens. Donc, on n'aura jamais fini de découvrir le sens de l'Eucharistie. Et cette exposition, eh bien, elle touche aujourd'hui les cœurs. Et nous, on assiste à des personnes qui, à travers Internet, parce qu'on la raconte aussi, on raconte aussi les miracles eucharistiques en vidéo sur la chaîne YouTube de Light in the Dark. On assiste à des personnes qui reviennent à l'Église, qui sont vraiment extrêmement touchées de découvrir toutes ces histoires autour des miracles eucharistiques. Et c'est pourquoi, après le kit sainteté de Carlo Acutis, nous avons proposé à notre éditeur d'écrire les miracles eucharistiques dans le monde.
Alors, pour répondre bien à votre question, vraiment, comment on a eu cette inspiration? Alors déjà, je pense que tout vient de cet intérêt qu'on a eu pour Carlo, et puis du fait que la maman de Carlo nous a offert une relique de Saint Carlo Acutis pour notre famille et notre mission. Et lorsqu'on l'a reçu avec Jean-Baptiste, on a vraiment eu le sentiment que ce n'était pas quelque chose de personnel qu'on recevait, mais que c'était une mission que Carlo nous demandait en fait de bosser pour lui, en fait, tout simplement. Moi, j'aime bien dire, il y a le bon Dieu, c'est le patron, et puis le sous-patron, c'est Carlo, donc il nous dit un peu de continuer un peu sa mission. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu saisi des miracles eucharistiques. Et puis, en les lisant tous, les uns après les autres, j'ai entendu parfois les gens dire « Oh, bah, quand on a lu un, tu les as tous lus. » Et je me suis dit « Mais non, en fait. » Quand on en a lu un, on ne les a pas tous lus, parce qu'à chaque fois, J'ai remarqué, donc il y en a une centaine, Dieu, il dit quelque chose de particulier. Donc bien sûr, si on les regarde d'extérieur, on a l'impression que c'est tous les mêmes. Et puis aussi, je regardais sur Internet, parce qu'on n'est pas les seuls, hein, bien sûr, heureusement, à s'être saisis des miracles eucharistiques, mais souvent, je m'apercevais que on parlait des miracles eucharistiques un peu comme un truc sensationnel, comme quelque chose qui nous en jetait plein les yeux, vous voyez. Et je me suis dit, mais c'est en fait, c'est pas tout à fait ça, les miracles eucharistiques. Bien sûr, c'est incroyable, c'est un miracle, mais je pense que c'est pas ça que Dieu veut nous dire. Et quand il y a 2000 ans et que Jésus accomplissait des miracles, l'objectif, c'était pas de mettre de la poudre aux yeux aux gens, c'était de les enseigner et de leur dire quelque chose à travers chaque miracle. Eh bien, quand Jésus accomplit un miracle eucharistique, il nous dit quelque chose. Il veut nous enseigner et il nous enseigne à travers ce que nous dit l'Église. Et donc l'idée de ce livre, c'est vraiment de montrer qu'est-ce que, à travers chaque miracle, eh bien, Dieu veut nous dire. Alors bien sûr, il veut nous dire son amour, hein. À chaque miracle, c'est l'objectif de Dieu qui ne cesse depuis des milliers d'années que l'homme existe de lui répéter qu'il l'aime et encore plus à travers Jésus. Et donc, à travers ces miracles eucharistiques, Jésus nous dit, je suis vraiment là, je vous aime vraiment, je suis présent au plus intime de toi-même. Et donc, c'est tout ce message qu'on a essayé de transmettre aussi à travers l'enseignement de l'Église.
Alors, et ce d'autant plus que il y a de nombreux types de miracles eucharistiques. Souvent, ceux qui ne les connaissent pas s'imaginent qu'un miracle eucharistique, c'est simplement une hostie qu'il se met à saigner. Alors ça, c'est vrai, il y en a pas mal. On appelle ça les miracles de transformation, parce que dans notre livre, on a voulu faire différentes catégories. Il y a même un index où on peut aller chercher selon les types de miracles eucharistiques. Mais il y a plein d'autres types. Il y a des miracles de protection des personnes, comme lors d'un tsunami où le prêtre a sorti le Saint-Sacrement et la vague s'est arrêtée. Il y a des miracles autour des animaux. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de la mule de Saint-Antoine, hein. C'était un moment où on est venu dire à Saint-Antoine que Jésus n'était pas vraiment présent dans l'Eucharistie. Et il y a eu un défi qui a été lancé et Saint-Antoine a sorti le Saint-Sacrement devant la personne qui remettait cela en cause. Et il y a une mule qui est passée par là et qui s'est agenouillée. Alors, ça a donné un magnifique tableau que vous pouvez retrouver au musée du Louvre si vous allez à Paris. Mais surtout, cette personne, eh bien, elle s'est convertie et elle est devenue un des disciples de Saint-Antoine. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est effectivement, comme Marie vient de le dire, mais je ne crois pas avoir entendu prononcer le mot, il y a une véritable pédagogie de Dieu. Dans chaque miracle, Dieu cherche à aider les personnes à faire un pas de plus vers lui. Finalement, un miracle, c'est une main tendue de Dieu. C'est une façon de nous rejoindre tout en respectant, bien sûr, notre liberté. On n'est d'ailleurs pas obligé de croire au miracle, même si l'Église nous rappelle quand même que on ne doit pas non plus les rejeter. Hein, tous ces miracles que nous référençons, grâce au travail que Carlo a fait au départ, bien entendu, eh bien, ce sont des miracles reconnus par l'Église. Et en même temps, voilà, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de ne pas s'arrêter à l'histoire, mais d'essayer de plonger dans la manière avec laquelle Dieu a essayé de finalement que la personne se convertisse davantage. Et ça fait partie des critères de discernement de l'Église pour reconnaître un miracle.
Alors, on peut encore en parler. Alors, ces miracles eucharistiques, hein, alors quelques mots sur ces miracles eucharistiques dans le monde et cet ouvrage qui est magnifique. Hein, permettez-moi, Jean-Baptiste et Marie Maillard, je trouve que vous avez vraiment une idée cadeau à offrir pour des jeunes baptisés, des jeunes confirmants et puis des adultes qui reprennent peut-être ou redécouvrent ce chemin aussi de contemplation de Jésus Eucharistie, qui est Jésus vivant. Alors dans ce...
Des premières communions.
Oui, tout à fait. Et première communion, oui. Et puis, il y a aussi cette très belle fête qui sera célébrée ce dimanche. Quelques mots sur cette fête Dieu, qui est la fête du Très-Saint-Sacrement, Jean-Baptiste et Marie.
Alors, tout à fait, parce que la fête Dieu, eh bien, elle a pour origine quand même... au tout départ, une vision de Sainte Julienne de Liège. Alors, on est en 1230. Et donc, Sainte Julienne, elle est adolescente et elle a une vision. Elle voit une lune, une pleine lune. Mais sur cette lune, il y a une fente noire. Et Jésus va lui expliquer, lui révéler qu'en fait, c'est cette fente, c'est une fête en l'honneur de son corps et de son sang qu'il manque à l'Église. Et donc, quand elle devient religieuse quelques années plus tard, Sainte Julienne de Liège va en parler donc à ses supérieurs et donc à l'évêque. Et aussi, dans l'évêque va un petit peu discuter avec d'autres théologiens, dont un certain Jacques Pantaléon, qui va devenir le pape Urbain IV. Je vous le signale parce
Ah
que on va en reparler tout de suite après. Et donc l'évêque va décider d'instituer cette fête, mais dans son diocèse. Et donc à partir de 1230, la fête est fêtée tous les ans dans le diocèse de Liège. Les années passent et on arrive donc en 1264, donc 34 ans plus tard. Et voilà qu'un prêtre vient visiter le pape. Donc pape Urbain, donc qui est notre fameux Jacques Pantaléon qui a été donc qui est devenu pape, et ce prêtre de Bohême, donc après avoir visité le pape, s'en retourne chez lui, mais au cours de sa route, il s'arrête à Bolsena et célèbre la messe. Il y a un miracle eucharistique. Et le pape lui-même va venir visiter, voir ce miracle eucharistique et va décider d'étendre la fête Dieu à toute l'Église universelle.
Alors, merci Marie. Je vais vous proposer une petite plage musicale. Voilà, le temps d'une respiration, peut-être de repenser. Et ceux et celles qui vous écoutent pourront peut-être, pendant cette plage musicale, aller sur Internet, pourquoi pas, et regarder de plus près aussi ce très beau livre qui relate plus d'une centaine de miracles eucharistiques, des miracles, important de le préciser, reconnus par la Sainte Église catholique. Marie et Jean-Baptiste Maillard, je vous propose de rester avec nous, bien sûr, et de vous retrouver dans quelques minutes. À tout de suite.
Présent livré pour nous, dans ton corps et don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est ton corps entre nos mains, ta vie qui est dans ce pain. Le don parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est ton corps entre nos
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
De retour dans ce Vivante Église qui est consacré au miracle eucharistique dans le monde, avec l'apparition de ce très bel ouvrage aux éditions Artege, Les miracles eucharistiques dans le monde. Je reçois et en ligne Marie et Jean-Baptiste Maillard. Vous êtes toujours avec nous ?
On est toujours là.
Oui, nous venons d'entendre, vous avez peut-être reconnu le groupe Glorious, hein, avec ce très beau titre qui correspond si bien aussi à ce Vivante Église consacré au miracle eucharistique. Et quand on parle de la Sainte Eucharistique, avec ce dimanche, cette belle et grande fête, Dieu qui célèbre ce Jésus eucharistique bien vivant. Alors tous les deux, Marie et Jean-Baptiste, vous êtes ces témoins vivants au service de l'Église, au service des âmes, au service de l'évangélisation. Qu'est-ce qui peut encore bouleverser les âmes, les cœurs avec l'Eucharistie et la contemplation de l'Eucharistie ?
Mais vous voyez, on le voit justement avec ces miracles eucharistiques. L'année dernière, à Tours, nous avons organisé une exposition avec une partie des panneaux de Carlo, parce qu'il y a tellement de panneaux qu'on ne peut pas tous les mettre. Et on en a fait non seulement une exposition, mais aussi une mission. C'est-à-dire qu'on a proposé à ceux qui le souhaitent de se former avec des petites vidéos sur qu'est-ce que l'Eucharistie, les fondamentaux, comment donner son propre témoignage par rapport à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique, comment accueillir les personnes aux abords de l'Église et dans l'Église, etc. Et en fait, on a eu des très très belle rencontre avec des gens très éloignés de la foi. C'était, je me souviens, des musulmans, des juifs, des personnes qui ne pratiquaient pas, des personnes homosexuelles qui ont été très touchées par cette exposition. On a vu beaucoup de gens pleurer en contemplant les miracles, en se rendant compte que, eh bien, Dieu finalement se rend vraiment présent dans cette Eucharistie. On a eu beaucoup de fioretti, de personnes qui ont commencé finalement à revenir vers l'Église. Et nous pensons que, eh bien, ces miracles eucharistiques sont justement un outil, un cadeau que nous a laissé Saint Carlo pour nous réveiller. Quand Carlo termine ce travail, il a travaillé pendant plus de 3 ans sur cette exposition pour mettre bout à bout tous ces panneaux, il trouve à Rome une université pontificale qui accepte d'exposer ses panneaux. Il est tout content, mais paf, il tombe malade, il rentre à l'hôpital, il explique à sa maman qu'il ne sortira pas de là vivant, il la prépare. Et quand il apprend le diagnostic de sa maladie, il dit « Le bon Dieu m'a réveillé ». Et donc, il ne peut pas assister à l'inauguration, et c'est quelque part un peu le point d'orgue de sa mission, sur Terre en tout cas, puisqu'il continue aujourd'hui aussi sur Terre de nous aider depuis le ciel. Et ce qui est très beau, eh bien, c'est que sa maman lui dit « Écoute, quand tu arriveras au ciel, eh bien, puisque le bon Dieu t'a jamais trop rien refusé, demande au Seigneur qu'il y ait un autre miracle eucharistique. » Et à peine 10 jours après sa mort, il y a un nouveau miracle eucharistique à Tixla, au Mexique, dans l'église Saint-Martin de Tours. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on constate que depuis quelques années, eh bien, il y a de nouveau pas mal de miracles eucharistiques. Hein, l'un des derniers qui a été reconnu par l'Église, eh bien, c'était l'année dernière en Inde. C'était le premier miracle eucharistique en Inde qui a eu lieu en 2013 et reconnu donc en 2025. Et donc, il y a plus en plus de miracles eucharistiques. Et en fait, ça nous aide à redécouvrir les fondamentaux autour de l'Eucharistie et le fait que, comme Carlo, de son vivant, on peut aller à la messe en semaine, on peut se replonger dans cette vie sacramentelle intense qu'appelait Carlo de ses voeux. C'est comme ça, c'est dans cette vie sacramentelle, avec la confession aussi hebdomadaire, que Carlo est devenu un saint. Vous voyez, la semaine dernière, on a donné une conférence à Lyon, et il y a une jeune femme qui est venue nous voir après et nous dire qu'elle avait appris il y a un an qu'elle avait un cancer. Et découvrant la chaîne YouTube de Light in the Dark, notre podcast dans lequel on raconte chaque semaine des Fioretti de l'intercession de Carlo, eh bien, ça lui a donné envie, à elle aussi, d'aller à la messe tous les jours. Et elle venait nous remercier pour nous dire qu'en fait, elle allait prendre des anxiolytiques. Et finalement, en vivant de sa vie sacramentelle, de l'Eucharistie le plus souvent possible en semaine, eh bien, ça l'a beaucoup aidé dans tous ces traitements qu'elle a reçus, qui étaient très lourds. Ça l'a beaucoup aidé à traverser la maladie. Et sans anxiolytique. Et ça, pour nous, c'est magnifique parce qu'on le voit quand on donne des conférences, quand on raconte les miracles eucharistiques, les enfants, même les très jeunes enfants, alors mon épouse Marie a un charisme pour ça, eh bien, ils ont les yeux écarquillés comme ça, ils regardent, ils sont captivés par ces histoires qui sont vraiment assez incroyables et qu'on peut reprendre le soir, j'ai envie de dire, au coin du feu, même si on est en été, sans feu, c'est pas la peine, mais on peut reprendre chaque soir une histoire, les raconter à ses enfants, et c'est vraiment merveilleux, et ça nous donne, normalement, ça nous fait grandir dans ce désir de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'après chaque histoire, dans le livre, on a pris le temps de mettre une petite méditation sur l'Eucharistie qui part de l'enseignement de l'Église.
Alors, on retrouve, pour chacun des miracles, et plus d'une centaine dans cet ouvrage, bel ouvrage aussi à offrir. Et puis, une idée cadeau aussi pour ceux et celles qui vont vivre pour la toute première fois cette communion eucharistique. Donc, une idée cadeau. Il y a aussi pour ces miracles eucharistiques une méditation, Jean-Baptiste et Marie, et une parole de Carlo Acutis. Oui. C'est important aussi pour vous?
Oui, c'est très important parce que je pense que justement Carlo aujourd'hui est une figure. Vous voyez, Jean-Baptiste a rappelé que juste avant, quand Carlo a appris qu'il allait mourir, hein, il a eu cette expression le Seigneur m'a réveillé. Au départ, j'étais un peu étonnée par cette phrase de Carlo. Je me disais, mais pourquoi il dit ça alors qu'il vivait tout le temps avec Jésus, il était, enfin voilà, moi je trouve que toute sa vie,
Carlo vivait au quotidien de tous les sacrements.
Oui, c'est
voilà, c'est ça. Comment pouvait-il avoir besoin de se réveiller, voilà.
C'est ça, a besoin d'être réveillé? Et puis petit à petit, je me suis dit qu'en fait, et c'est vrai, je pense, pour tous les saints, en fait, leur vie presque commence, leur job commence encore plus maintenant qu'ils sont au ciel. Et je pense que le bon Dieu l'a éveillé pour une nouvelle vie, une vie éternelle, mais dans laquelle il œuvre du haut du ciel. Et c'est étonnant, vous voyez, on n'a jamais connu que quand il était jeune, Carlo, il n'était pas connu en fait. Mais aujourd'hui, il est connu partout dans le monde et on voit qu'il œuvre énormément, plus que jamais du haut du ciel. Donc pour moi, c'est sa mission, elle a commencé encore plus maintenant qu'il est au ciel.
Que vous dit-il et que vous donne-t-il à vous deux? Vous êtes mariés, vous êtes parents et vous êtes missionnaires et vous brûlez, on l'entend, on vous entend depuis le début de cette émission de Vivante Église. Vous brûlez pour les âmes, vous brûlez aussi pour l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus est vivant dans cette Eucharistie et il se donne chaque jour sur nos autels. Il vous porte dans la mission à tous les deux, Marie et Jean-Baptiste.
Oui, tout à fait, Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure.
Il vous a réveillé, permettez-moi, vous avez évoqué et employé tous les deux ce terme, Marie et Jean-Baptiste, de réveil. Le monde a besoin d'un réveil. Les chrétiens, les pratiquants, les catholiques ont-ils besoin encore d'être réveillés, ranimés pour retrouver ce feu? Au fond, on parle d'amour quand on parle d'Eucharistie. Revenir aussi vers ce premier amour?
Oui, je pense que tout le monde a besoin d'être réveillé. Et alors nous, on a la chance d'avoir une vie sacramentelle avec Jean-Baptiste, mais on voit qu'à tout moment, en fait, on peut s'endormir et que vivre avec Jésus aujourd'hui. Enfin, il y avait un saint qui disait, je me souviens plus de son nom, mais qui disait, Seigneur, la première personne dont tu dois te méfier, c'est moi-même, parce que demain, je peux me détourner de toi. Voyez. Et donc, je pense que Carlo avait vraiment compris que, je vous avais dit tout à l'heure le mot fréquentation, et pour moi, c'est très important. Combien on le dit, si vous fréquentez les bonnes personnes, eh bien, vous grandirez dans les belles choses. Si vous fréquentez les mauvaises personnes, eh bien, vous vous laisserez entraîner. Voyez. Eh bien, Carlo, il avait compris que en fréquentant le saint des saints, on devient saint. Moi, j'aime bien dire aux jeunes, voyez, Carlo, il n'est pas devenu saint parce qu'il était meilleur que les autres, parce qu'il était précoce ou parce que c'était, je sais pas, parce que c'était quelqu'un de génial. Non, il est devenu saint pour une seule raison. Parce qu'il a fréquenté celui qui est saint. Et que petit à petit, vous voyez, c'est ça, fréquenter Jésus, eh bien, on lui ressemble, en fait. Il nous colle à la peau, un peu, si je puis dire comme ça. Et donc, c'est Jésus qui a fait la sainteté en Carlo. Donc, finalement, la sainteté, c'est quand même, c'est pas si compliqué. C'est pas à la force de notre poignet. C'est pas parce qu'on va prendre des douches froides le matin, parce qu'on va pas manger de sucre ou parce qu'on va se faire un coup de se flageller le matin. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est Jésus qui l'a fait en nous. Et nous, c'est vraiment se laisser faire. Et justement, pour se laisser faire, eh bien, il faut fréquenter Jésus à travers les sacrements en premier. Et donc, les sacrements de la messe, l'adoration, la confession aussi, très, très importante. Et puis bien sûr, la Sainte Vierge aussi, aimer la Sainte Vierge, etc.
Et si on peut vous donner un petit témoignage personnel,
allez-y,
en fait,
oui,
Carlo nous a réveillés nous-mêmes à plus d'un titre, plusieurs fois. Il nous a réveillés dans nos moments de doute. Par exemple, Light in the Dark vit de dons. Moi, je suis salarié à temps plein depuis le début. Et plusieurs fois, Carlo a intercédé de manière très forte pour nous, y compris pour nous aider à trouver des donateurs. Mais aussi dans notre mission, le premier miracle qu'on a eu, c'était un monsieur qui avait programmé son euthanasie en Belgique. On lui propose de prier Carlo. En 3 jours, c'est réglé de façon incroyable. Son cas a été médiatisé. Et ça nous a dit, mais il est incroyable ce Carlo. Et puis, on a eu plein d'autres miracles dans notre mission. Et parfois même dans des petites choses du quotidien, toutes simples. Je me souviens, après avoir posté il y a quelques semaines déjà notre dernier podcast où on racontait un Fioretti très fort de l'intercession de Carlo, au moment où je poste le podcast sur YouTube pour le programmer pour le lendemain, je me dis, ah là là, comment on va faire pour en trouver un autre encore plus fort, et paf, je reçois un SMS de quelqu'un à Toulouse, figurez-vous, qui me dit, on a entendu un Fioretti très important d'un monsieur dans une paroisse de Toulouse lors d'une veillée avec les reliques de Carlo, un monsieur qui avait un cancer, et paf, le Fioretti arrive au moment où je dis un peu à Carlo, qu'est-ce qu'on va encore pouvoir trouver, paf, il arrive, c'est incroyable. Et puis aussi dans l'addiction à la pornographie, figurez-vous, parce que Carlo nous a poussé à lancer une plateforme qui s'appelle sosporno.net, sur laquelle presque tous les jours des internautes viennent nous confier leur terrible souffrance, leur terrible douleur d'être dans cette addiction, ce qui fait que ça nous ouvre à nous, les missionnaires de Light in the Dark, qui prenons un créneau sur le chat de ces plateformes, eh bien ça nous fait ouvrir notre cœur de compassion, et c'est cela aussi que nous donne Carlo dans notre mission, c'est qu'il fait grandir notre cœur de compassion pour toutes ces personnes, et on prie avec elles, on leur propose la prière de libération par l'intercession de Saint Carlo. On a pas mal de projets d'ailleurs autour de ça, parce qu'on voudrait former des personnes pour intervenir dans les écoles, les aumôneries, les paroisses, les patronages. Et là aussi, Carlo nous booste, il nous ouvre des portes incroyables. Et vraiment, c'est très concret parce que ça nous aide à faire non seulement connaître le message de Carlo avec sa grande phrase qui est peut-être la seule que vos éditeurs devraient vraiment retenir aujourd'hui, c'est l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel, et finalement tout ce qui va avec.
Donc, quand on entend, et c'est bien de rappeler aussi cette phrase bien connue de Saint Carlo Acutis, l'autoroute vers le ciel. Quand on parle d'autoroute et de ciel, on parle au fond de ce qui est l'enjeu de tout un parcours de vie, de toute une vie ici-bas, dans nos choix. Vous avez parlé aussi des choix. Les choix sont personnels. Le bon Dieu laisse libre. Vous l'avez aussi bien rappelé. C'est cette question aussi de la finalité du chemin, la question aussi de l'éternité. Voilà, donc le souci des âmes, c'est ce qu'on peut aussi entendre quand on découvre ce jeune adolescent qui est parti à l'âge de 15 ans. Il vous porte, on entend bien, et quand on vous découvre aujourd'hui dans cette émission de Vivante Église, et j'espère que les éditeurs vous découvriront en allant un peu plus loin sur le net, et découvriront peut-être aussi ce très bel ouvrage qui relate plus d'une centaine de miracles eucharistiques. Important de préciser, ces miracles eucharistiques dans le monde, qui sont donc bien référencés dans ce bel ouvrage, ce sont des miracles reconnus par la Sainte Église catholique. Il y a pour chacun des miracles, ça va être bientôt la fin de cette émission, mais très vite, Jean-Baptiste et Marie, un QR code. Et ça, c'est un atout aussi, c'est un petit plus. Oui.
Il y a des illustrations et un QR code qui vous permet de flasher et d'avoir le récit du miracle en vidéo que vous pouvez montrer à vos enfants. Alors, on est en train de les finir, c'est pas tout à fait fini, mais si le QR code sinon renvoie vers une plateforme dont on n'a pas eu le temps de parler, mais qui s'appelle Le plus grand des miracles. Il s'agit évidemment de l'Eucharistie. Et je voudrais conclure en vous donnant une petite parole de Carlo qui nous porte aussi. Il dit, notre objectif, eh bien, c'est l'infini. Ce n'est pas le fini. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. Voilà. Carlo, il nous montre que notre objectif sur Terre, eh bien, c'est de chercher à aller au ciel. C'est de chercher la vie éternelle.
Et puis, je voudrais juste me permettre d'interpeller une dernière fois vos auditeurs. C'est de leur dire que, eh bien, à travers tous ces miracles eucharistiques, Dieu nous donne son amour. Et quelle est notre réponse ?
Merci à tous les deux, Jean-Baptiste et Marie Maillard, cet ouvrage, Les miracles eucharistiques dans le monde. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Nous vous souhaitons une très très belle mission. À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir Nathalie, au revoir à tous.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.